Europa Voice numéro 62, et comme chaque semaine, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Cette fois-ci, on est en studio, c'est bien d'être en studio, ça fait du bien. Allez, on va parler de déconfinement et surtout l'Europe, mais Bruxelles qui plaide pour une levée des restrictions frontalières intérieures au niveau européen à partir du 15 juin. Le 15 juin, j'allais dire c'est demain, c'est pas demain, mais c'est presque demain, c'est dans quelques jours.
Europe, Christophe, effectivement, réouverture des frontières en vue. C'est la Commission européenne, Christophe, qui pousse véritablement à cette réouverture générale. Alors, d'abord de l'espace Schengen, comme vous l'avez mentionné, dès le 15 juin. Et il faut dire que le timing de la Commission européenne est plutôt le bon, parce que du côté des États membres, ils sont plutôt tous préparés. L'idée, c'est que c'est un premier palier avant début juillet, le 1er juillet, selon toute vraisemblance, pour une réouverture progressive des frontières extérieures de l'Europe.
Si on parle des faits que les pays soient prêts, est-ce que vous êtes vraiment certain qu'on s'accorde vraiment, on a accordé ces violons au niveau de Schengen en termes de quarantaine? Il y aura une quarantaine, il n'y aura pas de quarantaine? Je parle pour les gens qui viennent de l'extérieur. Quid des Britanniques, des Hollandais, des Suédois? Est-ce qu'on joue sur la même partition au sein même de Schengen?
Alors, pour donner son conseil, en tout cas pour pousser à cette réouverture généralisée des frontières dans un premier temps au sein de l'espace Schengen, il y a une liste, si vous voulez, de critères sur laquelle les États membres vont devoir se baser justement pour mettre en place, pour implémenter cette réouverture des frontières. Il y a trois critères, Christophe. Le premier critère, c'est la situation épidémiologique dans le pays concerné. Donc c'est savoir où on en est à un instant T, période d'incubation comprise, de la propagation du virus. Ça, c'est le premier critère, Christophe. Le deuxième critère, Christophe, et ça va intéresser d'autant plus les voyageurs qui viennent de l'extérieur de l'espace Schengen, c'est la capacité à faire appliquer les mesures sanitaires pendant le voyage. Donc, est-ce que vous êtes capable de tracer pendant les périodes de transit, pendant les changements d'avion, les stop-overs, les différents voyageurs et leur contact ou pas avec des personnes porteurs du Covid-19. Et puis Christophe, le troisième aspect qui est, j'allais dire, un aspect à la fois sanitaire mais aussi diplomatique, c'est la réciprocité. C'est de savoir si vous pouvez aller dans un pays A, mais est-ce que des ressortissants de ce pays A peuvent aller dans votre pays. Voilà, ce sont là trois critères, pour répondre à votre question sur cet accord des violons, sur cette même feuille de route partagée, qui vont faire qu'on va voir dans quelle mesure cette réouverture des frontières va se mettre en place, d'abord au sein de l'espace Schengen dès le 15 juin et puis normalement dès le 1er juillet en dehors de l'espace Schengen.
Alors, je serais tenté de poser cette question. Pourquoi tant de précipitation? Pourquoi le 15 juin? Pourquoi c'est nécessaire? Est-ce que la question économique prévaut par-dessus tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe? Est-ce qu'on en est à ce point-là?
Alors, il y a trois éléments, Christophe, pour répondre à la question. Alors, d'abord, le premier élément, c'est que c'est un élément effectivement économique. L'Europe a été fortement impactée par cette crise du Covid-19. Donc, on a besoin de réouvrir les frontières pour relancer l'économie. Ça, c'est le premier élément global. Le deuxième élément, Christophe, on sait aussi que c'est la saison touristique qui commence. On sait que l'Europe est une destination touristique forte de voyageurs en provenance de l'espace Schengen lui-même, mais aussi de l'extérieur. Donc, il y a aussi ce besoin de mettre en place, les dispositions nécessaires à ce que la saison touristique se passe du mieux possible.
Mais juste pour vous interrompre, ça c'est vrai pour quelques pays, mais pas pour tous les pays européens. Je pense que le nombre de touristes qui affluent sur les plages espagnoles ou dans les châteaux forts français ou qui vont dans les vignobles italiens, il est moindre que ce qui se passe en Allemagne ou peut-être ailleurs, au Danemark, etc. Je pense au niveau du tourisme. Est-ce qu'il y a une poussée vers cette date du 15 juin qui est faite par les pays comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne?
C'est difficile d'avoir une réponse tout à fait tranchée ou de voir ça de manière blanc ou noir, parce que vous avez des pays, alors effectivement, comme le Danemark, qui choisissent de pousser peut-être un peu plus tard, qui veulent rouvrir un peu plus tard que cette date du 15 juin, mais dans ce panier de pays qui souhaitent une réouverture un peu plus tard, vous trouvez aussi des pays comme l'Espagne ou le Portugal, dont on fait peu de suspicion de leur attrait pour des touristes, soit de l'espace Schengen, soit de l'extérieur. Donc je crois que c'est plutôt, une position globale, un mix global. Alors après, ce qui est vrai, c'est que vous avez aussi des réouvertures de frontières pour les pays frontaliers. Je vous prends un exemple comme la Hongrie. La Hongrie a déjà réouvert ses frontières avec des pays comme l'Autriche, la Slovaquie ou la Slovénie, donc des pays limitrophes, des pays proches de la Hongrie. Donc vous voyez, c'est un équilibre subtil à avoir. Ce qui est vrai, Christophe, c'est qu'on doit de toute façon s'accorder dans un premier temps sur une réouverture de l'ensemble de l'espace Schengen. Il faut effectivement accorder ces violons sur l'ensemble de l'espace Schengen avant d'imaginer une réouverture en dehors de l'espace Schengen. Parce que pour le rappeler à nos auditeurs d'SBS et d'Europa Voice, il est évident que quand vous pénétrez dans un des pays de l'espace Schengen, l'Union européenne, après, il y a une liberté de circulation. Donc c'est beaucoup plus difficile. Enfin, il n'y a plus de frontières, si vous voulez. Une fois que vous êtes dans l'espace Schengen et que l'espace Schengen fonctionne, eh ben, vous pouvez aller d'un pays de l'Union européenne à un autre pays de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que même s'il y a des pays qui vont rouvrir un peu plus tard au sein de l'espace Schengen, il faudra que tous les pays soient sur la même longueur d'onde avant d'ouvrir les frontières à l'extérieur. Je termine juste sur le troisième élément, Christophe, de pourquoi une date, est-ce que c'est précipité. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a près de 15 millions d'Européens qui sont expatriés dans un autre État membre. Donc vous avez aussi, j'allais dire, une forte poussée d'Européens, tout simplement, qui veulent aller revoir leur famille, qui veulent revenir chez eux, etc. Donc vous voyez, c'est un sacré mix d'éléments qui font que... il est peut-être temps, en tout cas la Commission européenne, à commencer à réfléchir à cette réouverture progressive des frontières.
Et la Suisse dans tout ça ? Parce que la Suisse, ce n'est pas dans les espaces Schengen. Il y avait d'autres accords pour l'ouverture des frontières avant tout ça. Est-ce qu'on sait ce qui va se passer pour la Suisse ? Est-ce que la Suisse va suivre le même mouvement ou pas ?
Alors, il y a déjà des recommandations qui ont été faites, Christophe, au niveau de la Commission européenne, de commencer à ouvrir les frontières pour des personnes qui sont en provenance, alors je ne parle pas de la Suisse, mais par exemple des Balkans occidentaux. Je parle de l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord et la Serbie. Donc je pense que l'idée, c'est effectivement de travailler d'une certaine façon en cercle concentrique avec les premiers pays limitrophes de l'Union européenne. Alors la situation de la Suisse, elle est un peu différente puisque c'est...
Elle est juste au milieu.
Elle est juste au milieu. Mais voilà, l'idée, c'est effectivement, Christophe, c'est avec les pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui ne sont pas non plus à des milles et des milles de l'espace Schengen et l'Union européenne, de commencer aussi à réouvrir les frontières. Et puis encore une fois, il y a ce principe de réciprocité, donc ça, la balle, j'allais dire, même si Roger Federer ne commencera sa saison qu'en 2021, la balle est dans le camp suisse, à savoir si eux-mêmes acceptent à l'heure actuelle des ressortissants hors Suisse pour entrer sur le territoire.
Allez, deux dernières questions, deux derniers pays où on peut se concentrer sur cette question. D'abord, le Royaume-Uni, sans parler de Brexit, mais on sait que la situation est très tendue au Royaume-Uni d'un point de vue sanitaire. Ils ont dépassé les 40 000 morts. C'est le pays le plus affecté au niveau européen. Ça veut dire quoi par rapport à cette réouverture ? Parce qu'il y a un air de Brexit, en tout cas, dans tout ça. Et on avait déjà entendu parler que Boris Johnson et Emmanuel Macron s'étaient accordés de dire qu'il n'y aurait pas de quarantaine entre les deux pays. Si Schengen réouvre, est-ce que cette règle va être appliqué à tous les ressortissants britanniques ou pour l'instant ils sont carrément sur la touche ?
Alors c'est difficile, Christophe, de répondre de but en blanc à cette question pour la simple et bonne raison que, comme vous l'avez mentionné, en plus de l'épisode coronavirus et du déconfinement, de la réouverture des frontières, on a le chapeau Brexit aussi qui vient s'ajouter avec deux éléments, Christophe, j'allais dire. D'abord, on sait qu'il va y avoir une rencontre extrêmement importante entre Charles Michel, Ursula von der Leyen et Boris Johnson dans les jours qui viennent, justement pour essayer d'avancer sur le terrain politique du Brexit et de trouver des solutions aux problèmes de frontières, aux problèmes d'accord. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est que aussi, pour l'instant, on voit mal, si vous voulez, une exemption qui est faite au Royaume-Uni tant qu'encore une fois, on n'a pas accordé les violons au sein de l'Union européenne au sein des 26. Donc j'allais dire, ça va se jouer en même temps, ça va être progressif. À mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du 15 juin, à partir de la date où on réouvre, ou en tout cas on repermet la libre circulation au sein de l'espace Schengen, et quelques jours après, au moment où il va y avoir cette rencontre entre Boris Johnson, Ursula von der Leyen et Charles Michel, on va voir sûrement une position. Ça va forcément être, Christophe, à la table des négociations de savoir quid de ces frontières, de ces tests, de ces quarantaines ou pas avec les ressortissants du Royaume-Uni ou les ressortissants de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Et puis, il ne faut pas l'oublier, à ça va se rajouter aussi la perspective de la fin d'année, de la fin de l'année de transition, du no deal, de contrôle douanier ou pas. Donc, vous voyez, à mon avis, entre le 15 juin et la fin du mois de juin, on aura l'occasion, mais on l'aime, vous et moi, de refaire un petit point sur le Brexit.
Absolument. Les deux derniers points, la Suède, qui est partie vraiment à contre-courant de tout ce qui a pu être fait en Europe, aujourd'hui, ça commence, il commence à payer le prix pour ça. C'est vrai qu'il y a une flambée du nombre des contaminations, des nombres des morts également. Et aujourd'hui, la Suède est un peu mise sur le côté du banc européen, un peu comme les parias. Ça veut dire que leurs ressortissants suédois, ils vont avoir du mal à arriver ou à revenir dans le Schengen tout de suite, en tout cas.
Je reprends, Christophe, ce qu'on disait il y a quelques minutes hein, sur la propension des pays à vouloir tout de suite réouvrir l'espace Schengen. Il est vrai que les voisins de la Suède, dont, vous l'avez rappelé, la gestion de la pandémie a été fortement critiquée, ils sont frileux pour l'instant de réouvrir cet espace, en tout cas de réouvrir leurs frontières avec la Suède. Hein, je pense au Danemark, je pense même à la Finlande,
Norvège,
aux Pays-Bas dans une moindre mesure. Donc, non, effectivement, Christophe, ça va être intéressant de voir dans la balance entre la réelle politique par rapport à la gestion de crise et les principes fondateurs de l'Union européenne et de l'espace Schengen. La Commission européenne, elle pousse vraiment, Christophe, c'est important de le rappeler pour nos auditeurs d'SBS et d'Europa Voice, la Commission européenne pousse vraiment pour que le concept de libre circulation, qui est le fondement de la construction européenne, puisse se remettre en place. Mais on va voir comment ce concept fondateur de l'Union européenne va se frotter aux réalités pragmatiques du terrain et notamment à la gestion de crise, un peu plus calamiteuse qu'ailleurs, du coronavirus en Suède.
Allez, on va passer sur le point de vue économique. Et de ce point de vue, il y a les ministres des Finances qui ont tenu leur première discussion, c'était cette semaine, autour d'un projet de relance économique pour la Commission en elle-même. Par contre, il y a toujours ce clivage nord-sud qui persiste quand même.
Oui, Christophe, alors on en revient toujours à ce plan de relance européen colossal, hein, de 750 milliards d'euros. Et effectivement, comme vous le mentionnez, il est loin de faire l'unanimité pour l'instant au sein des différents États membres. Alors, il y a plusieurs clivages, Christophe, qui ressortent. Il y a les clivages entre les pays dits frugaux, les pays du Nord, plutôt de l'Europe, et les pays du Sud, ceux qui ont le plus souffert du coronavirus et des impacts du coronavirus. Ça, c'est le premier clivage. Et puis, vous avez, j'allais dire, deux autres clivages. Vous avez un clivage aussi entre l'Union européenne et certains pays de l'Est qui pensent qu'ils ne vont pas bénéficier autant qu'ils bénéficiaient avant des aides de l'Union européenne, puisqu'on déplace un peu ce qui normalement était alloué aux pays de l'Est, on le déplace un peu plus vers des pays du Sud qui ont souffert, Italie, Espagne, Grèce, Portugal, du coronavirus. Et moi, je vois même, Christophe, un petit troisième clivage qui ressurgit. C'est d'un côté le couple franco-allemand qui est véritablement en train de vouloir prendre le lead, qui est, rappelons-le, hein, avant qu'il y ait ce plan de relance de 750 milliards d'euros, il y avait eu cette initiative commune Allemagne-France qui avait été proposée par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Donc ce clivage entre la team France-Allemagne et le reste de l'Europe qui a envie aussi d'avoir son mot à dire. Donc oui, les choses ne sont pas simples au niveau de l'Europe par rapport à ce plan de relance.
Et en plus de tout ça, on peut aussi voir que même au sein d'un team comme le France-Allemagne, le plan de relance, il ne va pas forcément porter ses fruits aux mêmes endroits. On parlait de la construction, par exemple, la construction qui a été complètement stoppée en France et qui va avoir besoin d'avoir un gros plan de relance pour repartir. En Allemagne, on a continué à construire, donc il n'y a pas de plan forcément de relance puisque ça ne s'était pas arrêté. Est-ce qu'il y a des disparités également au sein même de choses comme le team France-Allemagne ou tout au sein de l'Europe également?
Alors, oui, Christophe, sur la question des différences, hein, plus que des disparités entre la France et l'Allemagne, vous avez pris l'exemple de la construction, il est très pertinent. Mais pour revenir à ce qu'on disait il y a quelques instants dans Europa Voice par rapport à la saison touristique, il est évident que pour la France, l'ouverture des frontières est primordiale pour sauver la saison touristique, ce qui est moins le cas.
Oui, ils ont Stéphane Bern quand même, hein, qui a dit qu'il fallait aller visiter les châteaux à côté de chez soi. Mais
oui, mais ce qui est moins le cas en Allemagne, on va moins compter sur cette saison touristique. Donc effectivement, il va y avoir des différences entre même pays qui s'accordent sur ce plan de relance. Mais ce qui est plus intéressant et la question que ça soulève, Christophe, c'est sur, j'allais dire, les questions justement autour de ce fonds de relance et qu'est-ce qui pour l'instant fait que ça bloque. Alors, vous avez d'abord la taille du futur mécanisme, évidemment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on le dimensionne, ce mécanisme. Et on l'avait dit la dernière fois, il faut une institution derrière pour le porter, hein, et pour qu'il y ait un projet politique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et ça, c'est une vraie disparité entre justement les frugaux et France, Allemagne ou le reste de l'Europe, c'est la répartition entre dons et prêts, hein, pour le faire très simple, les frugaux sont en train de dire, bah, y a aucune raison qu'on donne pas, enfin qu'on ne fasse pas un mécanisme de prêt parce que les taux sur les marchés sont très bas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les pays iront mieux, Italie, Espagne, quand ils ont retrouvé leur santé économique, ils seront capables, parce qu'en plus les taux sur les marchés étaient très bas, bah, de rembourser ce qu'on leur a prêté. Alors que pour l'instant, ce qui est plutôt dans la balance du plan de relance, c'est des dons, c'est-à-dire une somme d'argent que les États, pour faire très simple, n'auront pas à rembourser. Donc ça, c'est un deuxième élément qui est vraiment une disparité, qui fait que certains pays s'opposent. Le troisième élément, Christophe, c'est évidemment les financements futurs, parce que pour l'instant, on a des grands ensembles, mais comme vous l'avez dit, il va falloir mettre ces grands ensembles dans des tuyaux, donc savoir ce que derrière ces 500 milliards, par exemple, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça va être pour tel secteur, pour un autre secteur? Est-ce que ça va être pour la construction? Mais alors la construction, elle ne s'est pas arrêtée en Allemagne. Enfin, vous voyez, donc ça va être qu'est-ce qu'on met dans les tuyaux? Et puis le dernier élément, Christophe, qui est peut-être celui qui est aussi le plus révélateur en termes d'opposition, c'est que ces mêmes pays frugaux, si vous voulez, ils veulent un mécanisme, j'allais dire, de surveillance. Enfin, en tout cas, ils veulent que les pays à qui on prête de l'argent soient redevables et qu'on puisse tracer et puis qu'on puisse voir, en fait, qu'est-ce qui va être fait de cet argent alors que ces pays eux-mêmes ne veulent pas d'une quelconque ingérence dans les affaires nationales de l'Union européenne. Donc, vous voyez, c'est loin d'être gagné et on a des oppositions à la fois dans des pays comme entre la France et l'Allemagne qui sont plutôt alignés et on a évidemment des oppositions magistrales entre les pays frugaux, pour reprendre cet exemple-là, et les pays du sud de l'Europe.
Et pour mettre tout ça en contexte, il y a l'OCDE qui a sorti un rapport cette semaine qui dit qu'il ne sait pas. Première fois de leur histoire qu'ils émettent deux ou trois hypothèses, alors qu'en fait, ils étaient assez... de toute leur histoire des rapports de l'OCDE, ils ont toujours été assez précis. Pour la première fois de l'OCDE, pour la première fois de l'histoire de l'OCDE, c'est un rapport qui a trois hypothèses avec tout va mieux, une deuxième vague et tout va mal. Et même eux, ils ont du mal à prévoir un retour à une certaine normalité avant 2023, 2024, 2025. Donc tout ça, c'est un contexte politique avec d'énormes inconnus.
Oui, Christophe. Alors, je pense, là, c'est presque un... J'allais dire, c'est une opinion très personnelle. Je pense que aussi...
Mais on a besoin, des fois.
Non, mais d'un point de vue de l'OCDE ou de n'importe quelle institution, il y a eu tellement de plans sur la comète qui ont été faits, il y a eu tellement d'hypothèses qui ont été avancées, il y a eu tellement de polémiques, si on reprend même l'exemple de l'hydroxychloroquine, de l'étude du Lancet, etc., que...
On navigue à vue. Hein.
Exactement, on navigue à vue. Hein. La seule chose qui est vraie sur les dates, Christophe, j'allais dire, c'est qu'on a quand même une volonté au niveau de l'Union européenne de ne pas étaler ces aides sur un temps trop long. En tout cas, du côté franco-allemand, on pousse à ce qu'on on revienne à la normale assez rapidement et que ça ne s'étale pas sur des dizaines et des dizaines d'années. Mais c'est une volonté politique, ça, Christophe. Effectivement, on navigue à vue. Le rapport de l'OCDE, c'est un élément qui est extrêmement intéressant, mais je pense aussi parce que ce qui se passe en Europe et ce plan de relance, il est unique. Donc, c'est évidemment extrêmement difficile de faire maintenant une hypothèse sur quelque chose qui on n'a pas d'élément de comparaison. Voilà, mais ça va être... je crois que ce plan de relance, et j'avais vu certaines analyses chez nos confrères français, ce plan de relance, il peut aussi marquer une date historique dans l'histoire de l'Union européenne.
Notamment pour, on en parle beaucoup, mais l'industrie automobile, par exemple, qui a été beaucoup aidée après la crise de 2008, beaucoup aidée avec, on leur a donné beaucoup d'argent pour repartir à la normale. Aujourd'hui, l'argent qu'on passe, et que les États, à la fois l'Allemagne ou la France, par exemple, qui passent à Renault ou à leur industrie réciproque, il y a un élément écologique dessus. Donc il y a peut-être des choses qui peuvent changer, partant de là.
Bah écoutez, je crois que Ursula von der Leyen et son projet de Green Deal ne seraient pas en désaccord à ce que cette crise permette aussi de déplacer un peu le curseur vers plus de transition écologique au sein de l'Union européenne.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Nathanaël.
Merci, Christophe.